الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب من الشرك النذر لغير الله قال في الشرح لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة كالذبح لغير الله والنذر مصدر والنذر مصدر نذر ينذر أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له وكل الأبواب التي ذكرها المصنف تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. Donc on est arrivé au chapitre qui fait partie du polythéisme, le fait de vouer un vœu à autre qu'Allah. Donc il dit, parce que dans l'explication, il dit c'est parce que c'est une adoration qu'on est obligé de remplir. C'est-à-dire celui qui a fait un vœu, il est obligé, il est obligatoire, ce qu'on appelle al-wafa, c'est-à-dire remplir son vœu. Donc si on le voit autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme dans cette adoration, comme pour les gorges, comme pour les sacrifices. Et an-nadhr, ça veut dire, le vœu, ça veut dire s'imposer à soi-même une chose que la religion elle t'a pas imposée, pour glorifier celui à qui tu as dédié ce vœu. Donc en fait, c'est comme si une personne, elle dit par exemple, si j'ai réussi mon examen ou si je suis guéri, eh ben je me dois de jeûner pour Allah 10 jours. Donc les 10 jours, ils n'étaient pas obligatoires, elle se les a imposés. Et comment ça se ferait un vœu pour autre qu'Allah? C'est en disant par exemple, ou à la tombe, celui qui est dans la tombe, ou à l'arbre, ou au shir soufi, etc., lui dire si ma mère elle guérit, ou si je guéris, ou si j'allumerai des bougies sur ta tombe, ou alors je donnerai une aumône pour ta tombe, ou alors à celui qui garde ta tombe, ce genre de choses. Ensuite il dit wa qawlillahi ta'ala yufuna bin nadhr. Donc il a cité le verset du Coran dans Kitab Tawhid, dans Surat al-Insan, yufuna bin nadhr, c'est-à-dire ils remplissent leurs vœux. Donc il dit dans l'explication madahallahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabuhu ala anfusihim min at-ta'at wa huwa subhanahu لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم وذلك هو العبادة فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. Ce qu'il explique ici, donc, c'est que dans ce verset, Allah il a vanté ceux qui pratiquent le vœu, c'est-à-dire qui s'imposent à eux-mêmes quelque chose qu'Allah leur a pas imposé, ensuite ils le remplissent. Or, Allah il ne vante que celui qui fait une adoration, c'est-à-dire celui qui fait quelque chose de préférable ou d'obligatoire, ou celui qui délaisse quelque chose qui est interdit. Et l'adoration, c'est ça. Donc suivez le raisonnement. On en déduit que le vœu, c'est une adoration. Et si c'est une adoration, donc celui qui le voue pour autre qu'Allah, et pour se rapprocher de celui à qui vous se veut, donc il a commis du polythéisme. وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Ensuite il a cité le verset dans Surat al-Baqara, donc ce que vous dépensez comme dépense ou ce que vous faites comme vœu, Allah le sait. Donc il dit يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّمَا أَنْفَقْنَاهُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْنَاهُ مِنْ نَذْرٍ مُتَقَرِّبِينَ بِهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَيُجَازِينَ عَلَيْهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عِبَادَةٌ. Donc il dit, Allah il nous a informé dans ce verset que les dépenses qu'on fait ou alors les vœux qu'on lui voue pour se rapprocher de lui, Allah les connaît. Et quand Allah il dit Allah les connaît, c'est-à-dire il les connaît et il vous récompensera. Ce qui est voulu par là, c'est ce qui est compris, c'est-à-dire le fait que Allah il récompensera ceux qui font ça. Donc ça montre que c'est une adoration. فَالنُّذُورُ مِنْ عُبَّادِ الْقُبُورِ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ شِرْكِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَهُمْ فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. Donc il dit ici, il mentionne ceux qui pratiquent ça pour les tombes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les vœux pour les gens qui sont dans les tombes, pour que ces gens qui sont dans les tombes, ils intercèdent pour eux. Il dit alors qu'il est connu dans la religion, et ça fait partie des choses essentielles, que celui qui voue une adoration autre qu'Allah, c'est un mushrik, il est associé à Allah. Ensuite il dit, قال صنع الله الحلبي والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغير الله وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين والحاصل أن النذر لغير الله فجور فمن أين تحصل لهم الأجور. Donc là il a cité la parole d'un alim qui dit le fait de vouer pour autre qu'Allah, de faire un vœu pour autre qu'Allah, c'est associé à Allah, comme le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Et ce même alim, ce même savant, il dit, les juristes, donc les fuqaha, ils ont dit cinq choses lorsqu'elles sont vouées à autre qu'Allah, elles font partie du shirk. Al-ruku', donc l'inclinaison, la prosternation, les vœux, les sacrifices et les serments, le fait de jurer. Et il dit, donc, on en arrive à dire que le fait de vouer pour autre qu'Allah, c'est du fujur, c'est-à-dire c'est du péché. Alors il dit, famine aïna tahsulu lahum al-ujur. Donc comment ils pourraient arriver à des récompenses alors qu'ils sont en train de pratiquer un péché? وقال شيخ الإسلام وما نظره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات ولا وفاء عليه ولا كفارة. Donc il dit, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, quand une personne elle fait un vœu pour autre qu'Allah, comme pour les statues ou pour le soleil ou pour la lune, c'est comme jurer pour autre qu'Allah. Il dit, il ne doit pas remplir son vœu et il ne doit même pas faire une kafara, c'est-à-dire une expiation. وكذلك النادر للمخلوق ليس عليه وفاء فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله متفق عليه. Donc il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, pardon, il dit, donc celui qui fait un vœu pour une créature, il dit, il doit pas remplir son vœu, et le fait de vouer un vœu comme le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Et il dit, le shirk n'a pas de hurma, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on respecte pour qu'il y ait une expiation là-dedans. Et il dit simplement, il faut que la personne elle demande pardon à Allah. Et elle dise, et là c'est bon, là il parle du fait de jurer pour autre qu'Allah. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure en disant par Allah ou par Al-Uzza, qu'il dise, c'est-à-dire pour se rattraper, la ilaha illallah. C'est un hadith qui est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Ensuite, il dit, وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Donc dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, Sahih Bukhari pardon, il y a un hadith de Aïcha comme quoi le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah qu'il lui obéisse, et celui qui fait le vœu de lui désobéir qu'il ne lui désobéisse pas. Donc il dit ici, أي يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله فصار عبادة. Donc il est obligatoire de remplir le vœu que quelqu'un y voue pour Allah. Et donc c'est une adoration puisque c'est wajib.
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله حيا كان أو ميتا فإن كان حيا لزمه الوفاء به وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه في ذمته. Donc il dit, les ulama ils sont tous d'accord pour dire que celui qui fait le vœu d'une adoration envers Allah, d'un acte d'obéissance, et qu'il l'accroche à une cause, comme s'il dit par exemple, si Allah guérit mon malade, c'est-à-dire quelqu'un de sa famille qui est malade, alors je me dois de donner autant et autant en aumône. Donc il a accroché à un sabab, à une cause. Alors ils sont tous d'accord pour dire que si cette cause elle arrive, c'est-à-dire en l'occurrence si le malade guérit, il est obligatoire de remplir son vœu, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant. C'est-à-dire s'il est vivant, il le fait lui-même, et s'il est mort, c'est sa famille qui doivent le faire, parce que ça reste dans sa dhimma, c'est-à-dire c'est comme une dette.
Il dit illa Abu Hanifa tafaqal la yalzamuhu illa bima jinsuhu wajibun bi asli shara wal hadith hujjatun alayh. Donc il dit, sauf l'imam Abu Hanifa, lui il n'a pas dit comme le reste des ulama, il a dit ce qui est obligatoire c'est seulement s'il fait le vœu de quelque chose qui dont le genre est lui-même obligatoire dans la religion, comme le jeûne, parce qu'il y a du jeûne qui est obligatoire. Donc si il voue un jeûne, là il sera obligatoire. Mais le muhim, ça, sa parole, elle est contradictoire au hadith.
والأمر بالوفاء به دل على أنه عبادة وقد علمنا من الآيتين والحديث أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر.
Donc il répète encore une fois le fait que Allah nous a ordonné de remplir les vœux, ça montre que c'est une adoration et que donc celui qui le voue autre qu'Allah, il a commis du grand polythéisme.
ومنه الذين ينظرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور والمراد نذر الطاعة.
Donc il dit, c'est comme ceux qui font le vœu de donner de l'huile ou alors d'allumer des bougies ou donner du parfum, etc. aux tombes. Ça fait partie du vœu pour autre qu'Allah. Après, donc, pour résumer la fin du hadith, il a dit, celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne désobéisse pas. Donc dans le charh, il a cité que ça, c'est un ijma'. Ça veut dire tous les ulama sont d'accord que celui qui dit, par exemple, je fais le vœu de commettre tel ou tel péché, forcément, il ne doit pas le commettre. Et ils ont divergé simplement, est-ce qu'il doit faire une expiation ou pas. Ensuite, il dit, Babun min ash-shirk al-isti'azatu bi ghayri Allah. Donc, chapitre, qu'il fait partie du polythéisme, al-isti'aza par autre qu'Allah. Al-isti'aza, c'est-à-dire le fait de chercher protection auprès d'autre qu'Allah. Il dit, al-isti'azatu al-iltija'u al-i'tisam wa al-taharruz. Wa haqiqatuha al-harabu min shay'in takhafuhu ila man ya'asimuka minhu. Donc il dit al-isti'adha, c'est comme quand on dit a'udhu billah, c'est-à-dire c'est le fait de se diriger vers quelqu'un pour qu'il te protège de quelque chose. C'est fuir d'une chose que tu crains vers quelqu'un qui va t'en protéger. C'est ça l'isti'adha. Fal'a'idhu billahi qad haraba ilayhi wa'tasama wastajara bihi walaja ilayhi waltazama bijanibihi mimma yakhafuhu. Waltazama bijanabihi mimma yakhafuhu. Donc il dit, celui qui fait l'isti'adha par Allah, c'est-à-dire il fuit vers Allah pour qu'il le protège. Et il cherche refuge auprès d'Allah contre la chose qu'il craint. وَهَذَا تَمْثِيلٌ وَإِلَّا فَمَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا تُحِيطُ بِهِ عِبَارًا وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَتْ بِهَا السُنَّةُ عَنِ الْمَعْصُومِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِبَادَةٌ مِنْ أَجَلِّ الْعِبَادَاتِ فَصَرْفُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها عكس ثم فإنها إنما تفيد التعقيب وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. Donc il dit, dans l'isti'adha envers Allah, le fait de demander, de chercher la protection d'Allah, ça cache quelque chose dans le cœur que les expressions elles peuvent pas décrire. C'est-à-dire ça c'est une grande adoration qui est dans le cœur en fait. Quand tu dis a'udhu billah. Et il dit, Allah il a ordonné ses serviteurs de chercher refuge auprès de lui dans son livre. Et c'est quelque chose qui est connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des meilleurs, des plus grandes adorations. Donc celui qui l'avoue à autre qu'Allah, il a commis du shirk akbar, du polythéisme majeur. Mais si il cherche refuge auprès d'une créature vivante et présente, donc il faut deux conditions, vivante et non pas morte, présente et non pas lointaine qui t'entend pas, dans quelque chose qu'elle est capable de faire, et ça c'est permis. Comme par exemple tu dis à quelqu'un, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui me court après, est-ce que je peux rentrer chez toi, protège-moi. Ça, c'est pas interdit parce que la personne, elle est présente, elle t'entend et elle est capable de le faire. C'est quelque chose qu'Allah, il a mis à sa disposition et dans sa capacité. Donc ça, c'est pas du shirk. Il dit, et plus tard dans le livre, on va voir qu'il est permis de dire, je cherche refuge auprès d'Allah et ensuite, thumma. Ensuite, c'est thumma et ensuite par toi. Mais si tu dis, je cherche refuge en Allah et en toi, tu dis wa et non pas thumma. Tu dis pas ensuite. Ensuite en toi, tu dis et en toi. Il dit ça c'est du shirk asrar, c'est du petit polythéisme, ou plutôt du polythéisme mineur, même si tu lui as demandé quelque chose qu'il peut faire. Parce que al waw, ça implique que les deux choses qui sont citées, elles sont égales. Et donc quand tu dis je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de toi, même si tu n'en avais pas l'intention de dire qu'Allah est, ou que la personne est égale à Allah, ta parole c'est ce qu'elle implique. Donc c'est du polythéisme mineur. Parce que c'est pas comme thumma. Il faut bien différencier waw et thumma. On peut dire, je cherche refuge auprès d'Allah, après, auprès de toi. Parce que thumma, elle implique un tartib, c'est-à-dire un classement, une organisation. Donc quand tu dis, je cherche refuge auprès d'Allah, thumma, c'est-à-dire après, auprès de toi, ça montre bien qu'Allah, il est plus grand que celui qui est cité après. Mais si tu dis waw en arabe, ça implique pas un ordre. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, c'est thumma. Ensuite, ou et puis. Et ensuite, donc, s'il cherche refuge auprès d'une créature, dans quelque chose que seul Allah est capable de faire, donc là, c'est du shirk akbar.
Donc, il dit, « Wa qawli Allahi ta'ala, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udhuna bi rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. »
Donc, il a cité le verset dans Surat al-Jinn, donc il dit à peu près, « Il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge auprès des hommes parmi les djinns, et ça n'a fait qu'augmenter leur peur. » Il dit dans l'explication,
« Akhbara amman ista'adha bi khalqihi, anna ista'adhatahu zadathu rahaqan wa huwa at-tughyan. »
Donc Allah il nous informe de ceux qui cherchent refuge auprès des autres créatures et non pas auprès de lui, que ça ne l'a fait qu'augmenter la transgression, at-tughyan. Parce que rahaqa, en fait, ça peut avoir deux sens, soit khawfan ou soit tughyanan. Donc si c'est khawfan, en fait c'est zadat al-jinnu al-insa khawfan, et si c'est tughyanan, c'est-à-dire c'est zadat al-insu al-jinna tughyanan. Donc en fait ça peut avoir les deux sens. Soit ça veut dire ça n'a fait qu'augmenter leur rahaq dans le sens leur peur, c'est-à-dire ça a fait augmenter la peur des êtres humains. Le fait qu'ils ont cherché protection auprès des djinns, ça n'a fait qu'augmenter leur peur. Ou alors ça n'a fait qu'augmenter leur transgression, c'est-à-dire aux djinns. Et le verset, il a les deux, on peut lui dire les deux significations.
وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا فذمهم الله في هذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيد قصدهم.
Donc en fait c'est parce que les hommes avant l'islam, quand ils arrivaient dans un endroit et qu'ils voulaient camper, ils disaient je cherche refuge auprès du Seigneur ou du chef de cette vallée contre les débiles, on va dire, contre les gens bêtes de son peuple. En fait, ce qu'ils visaient par là, c'est le chef des djinns de la vallée. Donc ils cherchaient refuge comme ça. Donc dedans il y avait une sorte de soumission et d'humiliation. Et quand les djinns ils ont vu ça, que les hommes ils avaient peur d'eux et qu'ils leur demandaient la protection, eh ben, les djinns ils ont joué avec eux, ils ont fait qu'augmenter la peur des êtres humains. Parce qu'à la base c'est les djinns, comme ça a été rapporté dans des athars de certains tabiens, etc., que c'est les djinns qui ont peur des êtres humains et non pas les êtres humains qui ont avoir peur des djinns. Et donc Allah il a blâmé les êtres humains dans ce verset, et il les a informés qu'en fait le fait de chercher refuge auprès d'une autre créature, ça fait qu'augmenter ta crainte et ta peur.
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله. قال المصنف فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, lui il a appris à sa communauté de dire une dua, donc on va la voir par la suite, quand ils ont peur et quand ils s'arrêtent dans un endroit. Donc en fait il dit quel est le rapport entre le verset et le chapitre, c'est qu'Allah il nous a informé à propos, il nous a raconté ce qu'ils disaient les croyants parmi les djinns. Ils racontaient certaines choses du shirk, du polythéisme que eux ils pratiquaient avant. Et parmi ces choses du shirk, ils ont dit le fait que, donc que les êtres humains ils cherchaient refuge auprès d'eux. Et donc Mohammed ibn Abdel Wahhab il a cité comme faïda le fait que c'est pas parce qu'une chose elle entraîne un bien d'ici bas que c'est pas du shirk. Parce que là en l'occurrence les djinns ils pouvaient, c'est-à-dire les djinns ils ont profité de cette chose, donc il y avait un bien dedans pour les djinns. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas du shirk? C'est pas ça, c'est une faïda du hadith, du verset pardon. Et de toute façon le fait de, en général, de chercher à prouver qu'une chose elle est pas haram ou elle est pas shirk ou elle est pas bid'a parce que dedans il y a tel ou tel bénéfice, Ça, ce n'est pas, pas partie de l'islam. Comme je ne sais plus qui c'est qui me racontait, quelqu'un lui dit, ouais, mais les anachides avec les instruments et tout, c'est bien parce que quand tu t'écoutes ça, tu médites, ça te rappelle. Ou alors il y en a un autre, il a dit quoi ? Al-Muhim, dans les trucs interdits, donc il cherche des bénéfices. Mais Allah, comme je vous avais cité dans le Coran, il nous a dit à propos du vin et des jeux de hasard que dedans il y avait un bien. Quand Allah il a dit, Yas'alunaka anil khamri wal maysir. Il te demande à propos de l'alcool et des jeux de hasard. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Dit, dedans il y a un grand péché et un bien pour les gens. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mais le péché qu'il y a dans les deux est plus grand que le bien qu'il y a dans les deux. Donc Allah il a interdit l'alcool alors que Allah lui-même il a attesté qu'il y avait un bien dans l'alcool. C'est quoi le bien qu'il y a dans l'alcool? C'est que des fois l'alcool tu peux te soigner avec. Comme je ne vais pas répéter ce que j'avais dit l'autre fois. Oui, mais c'est, ça peut être comme un médicament, etc. Or, Allah il l'a quand même interdit. Donc chercher à philosopher, c'est pour ça moi ce que je vous conseille. Parce que bon, les gens qui sont assis ici, alhamdoulilah, on n'est pas atteint par ce genre de choses. Mais on va être atteint dans nos familles, dans les gens avec qui on va discuter. Donc quand une personne elle te dit, ouais mais la musique c'est bien quand même, ça détend quand je rentre du boulot, ou alors ça m'enlève de la détresse, etc. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de dire, ouais mais non, mais ça, en même temps ça pourrit le cœur, blablabla, etc. Et c'est comme si quelqu'un il disait, c'est la même chose. Ouais mais le vin, attends, quand même, si tu bois un petit temps en temps, c'est bon pour le cholestérol. Est-ce que tu vas rentrer dans le jeu, alors que dans le Coran c'est écrit clairement que c'est interdit? Tu vas pas rentrer dans le jeu. Donc pour tous les interdits, c'est la même chose. Tu lui dis, certes, peut-être il y a un bien dans ce dont tu es en train de parler, mais comme il y avait un bien dans l'alcool, et Allah lui-même il a dit qu'il y avait un bien dedans, et pourtant il l'a interdit. Et là, Allah il nous a dit, c'est à ça qu'il faut habituer les gens, quand vous discutez. Allah il nous a dit, on est des musulmans, on n'est pas des chrétiens ou des juifs. Allah il nous a dit, quand on diverge, on n'est pas d'accord sur quelque chose, Allah il nous a dit clairement, « فَارُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Renvoyez cette chose sur laquelle vous vous disputez à Allah et à son messager si vous croyez à Allah et au jour dernier. Donc tu dis à la personne simplement, tu crois à Allah au jour dernier? Eh bien on revient au livre d'Allah, à la sunna. Et Allah et le prophète il a dit, donc à propos des instruments, le hadith dans Sahih Bukhari, il viendra des gens à la fin dans ma communauté qui autoriseront le ma'azif. Le ma'azif c'est les instruments de musique. Donc je veux bien, le violon c'est beau, la flûte c'est super, les synthés, etc. Mais c'est haram. C'est que ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. On peut pas chercher plus loin. C'est à ça qu'il faut habituer les gens. Faut pas rentrer dans leur débat eux. Parce que sinon tu peux. Des arguments, tout le monde en a. Ensuite il dit, An Khawlata binti Hakim, qalat sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man nazala manzilan, faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Donc là ensuite il a mis un hadith qui est dans Sahih Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui descend dans un endroit et qui dit, donc أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, c'est-à-dire je cherche refuge ou protection auprès des paroles d'Allah parfaites contre le mal de ce qu'il a créé, rien ne lui causera du mal jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit. Donc dans l'explication il a dit, أي اعتصموا بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر أو الشافية الكافية أو الكلمات هنا القرآن من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام به الشر لا من شر كل ما خلق الله فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم. Donc il dit, cette doa, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, je cherche une protection, je me refuge auprès des paroles d'Allah qui sont parfaites et qui ne sont atteintes ni de manque ni de défaut, contrairement aux paroles des êtres humains. Ou alors, al-shafiya al-kafiya. À mon avis, ce qu'il veut dire ici, c'est surat al-fatiha. Ou alors, le Coran. C'est-à-dire, les paroles d'Allah, ce qui peut être voulu ici, c'est le Coran. Parce que le Coran, il est la parole d'Allah. Contre le mal de ce qu'il a créé, c'est-à-dire contre toute créature dans laquelle il y a du mal. Ça ne veut pas dire dans le mal de tout ce qu'il a créé, parce que parmi les créatures d'Allah, il y en a qui ne comportent pas de mal, comme il a cité ici le paradis, ou les anges ou les prophètes. Donc ce qui est voulu, c'est toute créature dans laquelle il y a du mal, je demande à Allah de me protéger de ce mal.
وما موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل التقييد الوصفي والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا ويقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن.
Donc il dit, le mal, الشر, c'est un nom qui regroupe tout ce qui est mauvais, le fasad, c'est-à-dire la corruption, al-dhulm, l'injustice, tout ce qui est mauvais. Et ça peut désigner la douleur ou alors ce qui ramène à la douleur. Et Allah, donc, il a légiféré aux musulmans de chercher protection en ses noms et en ses attributs, en échange de ce qui faisaient les gens avant l'islam, c'est-à-dire de chercher protection auprès des djinns.
والأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى.
Donc ça c'est un ordre pour nous montrer qui nous dirige vers ce qui repousse vraiment le mal.
وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ونهو عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك ومن ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عبادة.
Donc là il a cité plusieurs points, il a dit, donc ça c'est une faïda, c'est pas en rapport à Kitab Tawhid, il a dit ça c'est une des preuves de Ahl Sunna pour dire que la parole d'Allah n'était pas créée. Pourquoi? Parce que il dit, parce que le fait de chercher refuge auprès d'une créature, c'est du polythéisme, ça il n'y a personne qui va te dire le contraire. Or ici dans le hadith, le prophète il dit je cherche refuge auprès des paroles d'Allah. Donc si la parole d'Allah, en l'occurrence le Coran, était créée, ça serait du shirk. Et donc Ahl Sunna ils disent, et c'est donc contrairement à tout le reste d'Ahl Bida', ils disent que le Coran c'est la parole d'Allah. Et que Allah donc yusafu bil kalam. Al kalam donc c'est une sifa d'Allah. C'est une sifa à la fois sifatun dhatiya et sifatun fi'liya. Les qualités dhatiya d'Allah, c'est les qualités qui se rapportent à l'essence d'Allah lui-même. Comme par exemple, al-ilm, la science, al-hayat, la vie, al-qudra, la capacité. Ça, c'est des, pour dire en français une expression qui va rapprocher le sens. Entre guillemets, c'est des attributs qui ne se décollent pas d'Allah. C'est-à-dire, à aucun moment Allah n'avait pas de science. À aucun moment Allah n'avait pas de vie. À aucun moment Allah n'avait pas de capacité. Donc c'est des qualités qui ont toujours été les qualités d'Allah et qui le seront toujours. Parmi ces qualités, Al-Kalam, c'est-à-dire Allah, il n'a pas été muet à un moment et capable de parler à un moment. Donc c'est-à-dire Al-Kalam, Allah il a toujours été mutakallim, dans le sens où Allah a toujours été capable de Al-Kalam, de parler. C'est pas arrivé à un moment T, Allah il n'avait pas ce don et quelqu'un lui a donné. Donc c'est une sifa dhatiya. Et en même temps, c'est une sifa fi'aliya. Sifat al-fi'aliya, les attributs des actes, qu'est-ce que c'est? C'est des sifat, des attributs d'Allah, à propos desquels tu peux dire il les fait quand il veut. Donc les premiers, on ne peut pas dire Allah il sait quand il veut ou il peut quand il veut. Allah il sait toujours et il peut toujours. Mais si par exemple je te dis Allah istawa ala al-arsh, Allah il s'est établi sur le trône. Ça il l'a fait à un moment donné parce qu'il l'a voulu. Ou alors Allah yathak, Allah il rit. Allah il rit quand il veut et comme il le veut. Ou alors Allah par exemple, je ne sais pas, yakhluq, Allah il crée quand il veut. Ou alors Allah yanzil, Allah il descend quand il veut. Ou Allah il agit, Allah il vient quand il veut. Donc ça c'est, on appelle ça as-sifat ou al-fi'aliya. As-sifat al-fi'aliya, c'est les qualités d'Allah, les attributs d'Allah dont tu peux dire Allah les fait quand il veut. Contrairement au sifat dhatiya. Et le kalam, la parole, ça rentre dans les deux. Parce que c'est une sifa d'Allah lui-même, dans le sens où Allah a toujours eu la parole, dans le sens où il n'y a pas eu un moment où Allah était muet et ne pouvait pas parler. Et c'est une sifa fi'aliya, dans le sens où Allah il parle quand il veut. Et il ne parle pas quand il veut. Donc Al-Qur'an par exemple, ça fait partie des paroles d'Allah qu'il a dit à un moment. Donc ça c'est une sifa fi'liya. Et la parole d'Allah, comme c'est une sifa, comme c'est un attribut d'Allah, eh ben c'est pas quelque chose de créé. Parce que celui qui n'est pas créé, Allah, est-ce qu'il est makhluk ou ghayr makhluk? Ghayr makhluk, c'est sûr. Allah, c'est lui le khaliq, c'est lui le créateur. Donc ses attributs, de la même façon, ils ne sont pas créés. Et ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Al-Jahmiya, eux, ils croient à aucun attribut d'Allah. Même la science, même la vie, même rien du tout. Le seul attribut auquel ils croient, c'est Al-Wujud ou Al-Mutlaq, l'existence absolue. Ils disent Allah existe, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent à propos de la parole d'Allah? Al-Mu'tazila, ils disent tout simplement, sans honte, que c'est des sons qu'Allah a créés. Il les a créés dans la nature, dans le ciel ou dans l'espace, et il les a fait révéler à son prophète. Mais c'est pas Allah qui a parlé. Ça, à la limite, c'est clair. Al-Mu'tazila, c'est un ennemi clair. Ça veut dire il renie les attributs d'Allah sans, on va dire, sans chichi. L'ennemi qui est bizarre, c'est l'Asha'ira. L'Asha'ariya, comme je vous répète, c'est l'Aqida qui est répandue dans tous les pays musulmans, sauf l'Arabie Saoudite. Donc même au Maroc, l'Aqida officielle, ou en Algérie, en Tunisie, c'est l'Ash'ariya, c'est l'Aqida officielle. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Al-Ash'ariya, parmi les sept attributs qu'ils attestent à Allah, Al-Kalam, la parole. Donc là, on pourrait dire, Alhamdoulilah, ils ont attribué à Allah la parole, comme nous on le fait. Mais si tu rentres dans leurs explications, là tu te rends compte qu'ils n'ont pas attesté à Allah la parole, comme ils l'ont fait les Sahaba et les Tabi'in. Parce que pour eux, la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, c'est Ma'anan qa'imun bi-dhatillah. Ça veut dire c'est des significations qui sont en Allah, dans l'essence d'Allah. Donc ces paroles et ces mots qui sont dans le Coran, ça c'est pas la parole d'Allah. Ça ce n'est que l'expression qui ne fait qu'exprimer ces significations qui étaient en Allah. Et donc ils disent Al-Kalam, c'est quoi alors? Est-ce que c'est ce Coran ou est-ce que c'est ces significations que vous nous avez inventées qui sont soi-disant? Ils disent non, c'est ça, c'est sur ces significations qui sont qa'imatun bidhatillah. C'est-à-dire Allah il a en lui-même des, comme des pensées, et c'est ça sa parole. En fait c'est ça, quand les Asha'ira, sachez-le, quand ils disent Allah il a l'attribut de la parole, eux c'est de ça qu'ils parlent. Mais le Coran pour eux c'est pas la parole d'Allah. Donc il faut le savoir, quand on dit l'Asha'ira ils attestent à Allah Al-Kalam, c'est pas comme Ahl Sunnah. Pour eux Al-Kalam c'est les significations qui sont en Allah. Or, dans la langue arabe et dans la religion, ça s'appelle pas le kalam. Ça s'appelle hadith ou nafs. Ça s'appelle pas le kalam. La chose que la personne, elle se dit en elle-même, ça s'appelle pas le kalam. Le kalam, c'est la chose que la personne prononce et qui est composée de lettres et de sons. C'est ça le kalam. Et c'est ça le kalam que Ahl Sunnah, ils attestent à Allah. Donc, ils disent le Coran, avec ses lettres et ses sons, c'est la parole d'Allah. Et ce qui prouve ça, c'est tous les endroits où Allah il dit dans le Coran, par exemple, il raconte son histoire avec Moussa. Donc quand Allah, par exemple, il a dit à Moussa, « Ya Moussa, innani an Allah. » Donc ça veut bien dire que Moussa, il a entendu « innani an Allah ». Donc il a entendu des sons. Et il a entendu, c'est une parole composée de lettres. « Innani an Allah ». Donc ça prouve bien que la parole d'Allah, elle est composée de lettres et de sons. Vous avez compris? C'est pas simplement des significations comme des pensées qu'Allah il a. C'est effectivement une parole. Allah il parle. Mais il parle, est-ce que sa parole elle est comme celle des êtres humains? Non. Parce que laïsa kamithlihi shay. Donc c'est une parole qui est propre à Allah. Parce que si on dit c'est des pensées qui sont en Allah, des significations qui sont en Allah, alors c'est quoi qu'il a entendu Moussa? Est-ce que c'est un ange qui a osé dire à la place d'Allah, je suis Allah? Est-ce que c'est un ange qui a dit ça à Moussa? Donc ça c'est de la contradiction. Et de toute façon celui qui fait précéder la raison ou son madhab avant la religion, il va tomber dans la contradiction. Donc fait partie de la croise Ahl Sunnah d'attester à Allah la parole. Mais la parole, une parole composée de sons et de lettres. Parce que Al-Asha'ira, ils attestent à Allah la parole, mais en fait ce qu'ils ont attesté c'est pas la parole, c'est Hadith un-Nafs. Et même la religion, elle a différencié entre le Kalam et Hadith un-Nafs. N'est-ce pas que celui qui fait la salat, s'il a le kalam, est-ce que sa prière elle est acceptée ou pas? C'est-à-dire il va dire hey, Mohamed ramène-moi un coca en pleine salat. Ça c'est du kalam. Sa prière elle est annulée. Et si au fond de lui, il dit, j'aimerais bien que Mohamed me ramène un coca, est-ce que sa prière est annulée? Donc la religion, elle a fait une différence entre le kalam et hadith ou nafs. Donc l'ash'ari, ce qu'ils ont attesté à Allah, c'est hadith ou nafs, et non pas le kalam. Même s'ils disent, eux, qu'ils attestent comme attribut d'Allah, le kalam. Donc le kalam, ça c'est une des preuves. Comme quoi le kalam, c'est pas la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Sinon, on ne pourrait pas dire, a'udhu bi kalimatillah. Ensuite, il dit, donc les musulmans, ils ont été interdits de dire des paroles de protection, comme des ruqya, qui sont dans lesquelles on connaît, dont on ne connaît pas les significations. Parce que la plupart, comme ils disent les talib et les fiqh et tout ça, quand ils viennent, ils te font ruqya, puis tu comprends rien à ce qu'ils disent. Donc c'est une isti'adha, mais interdite, parce que c'est des paroles qu'on ne comprend pas, et la plupart du temps, donc ça comporte du shirk, et des noms de shayatin, etc. Donc il dit ici, celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, ou qui cherche refuge auprès de autre qu'Allah, ou qui se rapproche vers autre qu'Allah par quelque chose qu'il aime, alors il l'a adoré. Même s'il ne dit pas que ce qu'il fait c'est de l'adoration. Comme ils font maintenant, ils vont dans la tombe d'un tel ou un tel, ils égorgent, ou alors ils disent, ils font les vœux, ou ils tournent autour de sa tombe, ou alors ils cherchent refuge auprès de lui. Et si tu leur dis, ils disent ça c'est mahabbatul salihin. Ils disent ça c'est mahabbatul awliya, c'est pas ibadah. Mais comme ils disent, al-asma la tughayyiru al-haqa'iq. Ça c'est une belle règle. Les noms ne changent pas la réalité. C'est-à-dire la réalité de ce qu'ils font, si on regarde par rapport au Coran, c'est de la ibadah. Donc même si eux ils appellent pas ça ibadah, c'est une ibadah. Ensuite il cite quelque chose ici, il dit qala al-Qurtubi hadha khabarun sahih. علمنا صدقه دليلا وتجربة منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلا أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي نسيته قال المصنف فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. Donc القرطبي, donc le problème quand il dit القرطبي, ça peut être beaucoup de personnes. Souvent quand il dit القرطبي comme ça, c'est celui qui a écrit l'interprétation du Coran, أحكام القرآن. Al-Qurtubi, il a dit, ça c'est un hadith authentique dont nous connaissons l'authenticité par l'expérience. Il dit, depuis que je l'ai entendu, et je l'ai toujours dit, et jamais rien, j'ai jamais eu de mal, il dit, si ce n'est qu'une fois, je l'ai oublié, et un scorpion, il m'a piqué. Il dit, je me suis mis à réfléchir, et je me suis rendu compte que ce jour-là, j'avais oublié de la dire. Donc le jour où il a oublié, seulement un scorpion, mais sinon, il n'a pas été atteint du mal. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. 37 minutes, attends. J'ai l'impression que ça fait 10 heures que je parle. Bon, on va continuer un peu. Babun min ash-shirki an yastaghitha bi ghayri llahi aw yad'a ghayrahu. Donc là c'est un chapitre qui ressemble à celui d'avant. Donc celui d'avant c'était sur l'isti'adha, là c'est sur l'istighatha. Donc il dit al-istighatha talabu al-ghawth wa huwa izalatu ash-shidda kal-istinsari talabu an-nusra. والاستعانة طلب العون والغياث هو المغيث وأكثر ما يقال غياث المستغيثين أي مدرك عبادهم في الشدائد إذا دعوهم ومجيبهم ومخلصهم والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص فبينهما عموم وخصوص مطلق. Donc il dit al-istighatha, c'est demander al-ghawth. Al-ghawth, c'est le fait d'enlever un mal, hein, c'est-à-dire une situation difficile, ash-shidda. Donc il dit, pour résumer, donc Allah c'est lui qui enlève le mal de ses créatures lorsqu'elles lui demandent. Et la différence entre l'istighatha et le dua, c'est que l'istighatha, c'est quand tu demandes contre un mal, al-makroub, et contre une certaine catastrophe et une mauvaise situation. Et dua, c'est plus général. Donc quand dans le chapitre il a dit celui qui fait l'istiratha et celui qui invoque, en fait il a mis quelque chose de particulier avec quelque chose de général, parce que l'istiratha c'est compris dans le dua. Donc pour ceux qui ont l'arabe, il dit فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ, c'est-à-dire quand il dit ça, quand vous entendez à propos de deux termes, بَيْنَهُمَا عُمُومٌ wa khususun mutlaq, ça veut dire kullu istighathatin du'a wa laysa kullu du'a'in istighatha. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est plus général que l'autre, et l'autre est compris, et l'un des deux est compris dans l'autre. C'est ça que ça veut dire quand ils disent بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ.
والمراد بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الأموات والغائبين وأنه من الشرك الأكبر.
Donc ce qui va montrer ici, c'est qu'il est interdit de faire l'istighatha par autre qu'Allah, ou alors d'invoquer autre qu'Allah, comme les morts ou les absents, parce que ça fait partie du polythéisme majeur.
وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية.
Donc il a cité le verset: n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'est pas utile et qui ne te nuit pas, et si tu le faisais, tu serais parmi les injustes, et si Allah te donne un mal, nul ne peut l'enlever si ce n'est lui. Donc il dit dans l'explication:
نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر.
Donc Allah il a interdit à son prophète d'invoquer qui que ce soit parmi la créature qui sont incapables de te ramener un bien, une utilité, ou de repousser un mal.
وأنه لا يجوز إلا ممن يملكه وهو الله وحده.
Et qu'il n'est autorisé que de celui qui le possède, c'est-à-dire celui qui possède le bien et le mal, et c'est Allah lui seul.
وهذا النهي خرج مخرج الخصوص والمراد به العموم فهو عام لجميع الأمة.
Donc ça c'est une interdiction dirigée au prophète, mais ce qui est voulu par là c'est toute sa communauté.
فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين.
Donc dans le verset il a dit: si tu le faisais, c'est-à-dire si tu invoquais en dehors d'Allah quelqu'un, tu serais parmi les injustes, c'est-à-dire parmi les polythéistes. Pourquoi il a dit parmi les polythéistes? Parce que dans un verset, on avait vu dans un hadith que al-dhulm dans le Coran, c'est le polythéisme.
ولها نظائر يخاطب تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وهو مبرأ منه لكنه أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله عز وجل.
Donc ils disent, c'est comme dans plusieurs versets où Allah il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui interdit une chose que le prophète déjà il ne fait pas. C'est pour montrer, c'est pour insister sur l'interdiction et sur le fait de mettre en garde contre cette chose. Et là en l'occurrence contre le fait de mettre en garde d'invoquer autre qu'Allah.
وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ هو العبادة صححه الترمذي وغيره.
Ensuite il a dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'invocation est al-mukh, c'est-à-dire le centre de l'adoration ou la chair de l'adoration. Et dans un autre hadith il a dit l'invocation c'est l'adoration.
وَأَتَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ وَالْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّمْ لِيَدُلَّ عَلَى الْحَصْرِ وَأَنَّ الْعِبَادَةَ لَيْسَتْ غَيْرُ الدُّعَى أَوْ إِنَّمَا هِيَ الدُّعَى نَفْسُهُ.
Donc il a dit, dans le hadith, le prophète il a dit al-du'a'u huwa al-ibada. Donc huwa, ça s'appelle damir al-fasl, c'est pour insister que l'adoration ça n'est que l'invocation. Et en plus il a dit al-du'a. Donc al-mubtada, tome 1, tome 2 là. Mubtada c'est al-du'a et al-ibada c'est al-khabar. Et quand vous avez les deux qui sont mu'arraf, c'est le contraire de nakira, ça veut dire ils sont définis. Donc là c'est al, donc al-du'a et al-ibada, ça veut dire al-hasr, ça veut dire que c'est que ça. C'est comme si tu dis Muhammadun Rasulullah. Muhammad c'est défini, c'est un prénom. Rasulullah c'est défini, parce que c'est mudaf. Donc ça veut dire Muhammad est l'envoyé d'Allah lui seul, c'est-à-dire dans notre époque. Et là c'est pareil, al-du'a ou al-ibada, c'est-à-dire c'est comme si l'adoration ça n'était que l'invocation. Ou alors c'est comme si, il dit ici, l'adoration ça n'est que ad-du'a elle-même, c'est-à-dire l'invocation. Ça ça n'empêche pas qu'il y ait autre que la du'a qui fasse partie de l'adoration, bien sûr, comme on l'a vu depuis le début dans Kitab Tawhid, mais ça peut être pour exagérer dans le fait que ad-du'a c'est l'adoration. ثم الدعاء نوعان دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر فالمعبود لابد أن يكون مالكا لذلك ولذلك أنكر الله على من عبد من لا يملك ضرا ولا نفعا والنوع الثاني دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة وهو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب وهما متلازما Il a dit الدعاء elle est de deux sortes c'est-à-dire le mot دعاء ou le verbe da'a, ça peut vouloir dire deux choses. La première chose, c'est du'a ou mas'ala, l'invocation, la du'a de demande. Il dit, c'est le fait de demander, que la personne, elle demande un bien, ou elle demande de repousser un mal. Et la personne qui a adoré, à qui on demande ce bien, il faut qu'elle le possède. C'est pour ça qu'Allah, il a blâmé ceux qui adorent en dehors d'Allah, les créatures, alors que les créatures elles ne possèdent ni le bien ni le mal. Donc Al-Mu'im, c'est que du'a, ça peut vouloir dire l'invocation. Ou alors la deuxième sorte, c'est du'a ou ibada, c'est-à-dire la du'a de qui veut dire l'adoration, quelle que soit la catégorie d'adoration, même si dedans il n'y a pas d'invocation. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que le mot du'a ou le verbe da'a yad'u, ça peut vouloir dire invoquer et ça peut vouloir dire adorer. C'est comme dans le verset où Allah dit, pour prouver ce qu'il dit ici, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Votre Seigneur a dit, ادْعُونِي, invoquez-moi, ou alors adorez-moi. C'est le verbe qui vient du mot du'a. Je vous répondrai, ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration, alors qu'au début il a mentionné du'a. Ça veut dire que du'a, c'est un synonyme de ibada. Donc, si tu dis par exemple yad'oun al-lat, ça ne veut pas seulement dire ils invoquent al-lat. Ça veut dire ils adorent, que ce soit par les sacrifices ou quoi que ce soit. Et dans certains autres hadiths ou certains versets, al-du'a, ça va vouloir dire spécialement al-mas'ala, c'est-à-dire le fait de demander. Donc, ça, c'est important de le retenir. Ensuite, il dit. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّهُ Dans le verset, si Allah te prend d'un mal, nul ne peut te l'enlever si ce n'est Allah. Il dit إِنْ أَصَابَكَ بِثَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرِّ فَلَا يَكْشِفُ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ مُتَفَرِّدُ بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه إلا هو سبحانه فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر الآية ونحوها وفي حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك Donc il dit, par rapport au verset, il dit, c'est-à-dire que si Allah te touche par la pauvreté ou par la maladie ou quoi que ce soit, parmi le mal, nul ne peut enlever ce mal si ce n'est Allah. Parce que c'est lui seul qui détient la possession et la domination, qui détient le fait de donner ou le fait de retenir, qui détient le fait de nuire et le fait d'être utile, en dehors de tout ce qui est en dehors de lui, en dehors de ses créatures. Et donc, si c'est lui seul qui détient tout ça, alors c'est lui seul qui doit être invoqué sans associé. Et surtout parce que l'adoration, elle ne peut être vouée qu'à celui qui détient le bien et le mal. Sinon, elle n'a aucun sens. Or, le bien et le mal, personne n'en possède quoi que ce soit si ce n'est Allah. Donc c'est lui seul qui mérite cette adoration. En dehors de ceux des autres, parce que les autres, ils ne possèdent ni le bien ni le mal. Comme Allah dans un autre verset dit, « Dis, avez-vous vu ce que vous adorez en dehors d'Allah ? Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent enlever son mal ?» Ça c'est dans un autre verset. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Sache que si les gens, s'ils se réunissaient pour te faire un bien, il ne pourrait te faire que ce qu'Allah t'a écrit. » Donc ce qui est voulu par là, tout de suite à l'esprit des gens, c'est qu'ils se disent, bah, pourtant entre nous on peut se faire du mal, on peut se faire du bien. Mais ce qui est voulu par là, c'est pas ça. Ce qui est voulu par là, c'est les choses qu'Allah seul est capable de faire. Ou alors même dans les choses qu'on peut se faire entre nous, on peut les faire que par la permission d'Allah. Donc à la fin, c'est Allah lui seul qui détient le bien et qui détient le mal. Parce que si maintenant tu vas à un mort et tu lui dis guéris-moi, sors-moi de la pauvreté, etc. Or, cette pauvreté et cette maladie, c'est qui te l'a écrit? C'est Allah. Donc, c'est-à-dire tu demandes à autre qu'Allah d'enlever quelque chose que Allah t'a mis. Alors qu'Allah, c'est lui qui peut destiner ces choses et c'est lui qui détient ces choses. Et tu l'as demandé à quelqu'un qui ne détient pas. Donc, on va s'arrêter là, sachant que ce chapitre, on l'a pas fini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.